C'est un podcast Vivre FM.
Midi et vous.
Carole Clémence.
Lorsqu'un enfant tombe gravement malade, il devient logiquement le centre de la famille, l'objet de toutes les attentions. En pâtissent toujours les frères et les sœurs, malgré les efforts des parents pour ne pas qu'ils se sentent mis de côté. Muriel Sibilia réunit les témoignages de fratries d'enfants gravement malades dans son livre « Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades » aux éditions Slatkin. Ce sont des récits troublants pour sensibiliser. Elle offre aussi dans son livre les témoignages spécialistes pour donner des pistes, des solutions pour aider ses enfants, ses fratries d'enfants gravement malades. On en parle avec elle aujourd'hui sur Vivre FM.
Midi et vous.
Carole Clémence.
Muriel Sibilia, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes notre invitée. Vous avez réuni dans votre livre des témoignages d'enfants qui sont, enfin, d'adultes qui étaient enfants à l'époque, qui sont souvent jeunes. Il y a un témoignage d'une personne de 44 ans, mais les autres sont au moins de 30 ans. C'est volontaire ou c'est...
Oui, j'avais eu envie d'avoir une espèce de cohérence au niveau des vécus. Et donc, j'ai pris la tranche d'âge 20-30 ans. Et pendant que je faisais ce travail, il y a une personne qui m'a contactée, qui était beaucoup plus âgée. Et dans un premier temps, je me suis dit, non, parce que ça ne rentre pas dans le schéma que j'avais en tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne est revenue vers moi. Et là, je me suis dit que j'étais idiote, qu'au contraire, c'était extrêmement intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un à qui c'est arrivé il y a 36 ans. Et de voir comment cette histoire qu'elle avait vécue, son frère ayant eu un cancer, comment cette histoire avait travaillé son existence, son cheminement et ce qu'elle faisait de cette expérience aujourd'hui.
Et puisque ça l'a marqué dans sa façon d'être avec ses enfants, ses propres enfants.
Alors ça l'a marqué sur plein d'aspects différents, c'est-à-dire que d'une part, elle a choisi une profession médicale, ce qui est le cas de plein de frères et de sœurs qui ont rencontré la maladie sur leur chemin, que ce soit une maladie psychique, un sérieux handicap ou une maladie physique grave. Il y en a énormément qui se dirigent vers le soin, les métiers du soin, médecins, infirmières, aides sociaux, etc. Donc elle est devenue infirmière et elle a fini entre guillemets dans un service d'oncologie pédiatrique, voilà. Et ça se comprend.
Oui, c'est vraiment le retour.
Oui. Et du coup, elle est très sensible au vécu des frères et sœurs puisque c'est son expérience presque biologique, je dirais.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'expérience qu'elle a eue avec la maladie de son frère, c'est que l'hôpital est devenu un lieu bienveillant, le lieu où on est en train de sauver son frère, le lieu où le personnel était attentif, mais en même temps, et c'est ce qu'elle raconte dans son témoignage, on ne lui a jamais demandé comment elle allait, elle.
Oui, et ça, il faut le faire, vous allez l'expliquer au cours de cette émission, il faut prendre en compte la souffrance de ses frères et sœurs, justement, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas cette souffrance, ils la gardent pour eux, parce qu'ils culpabilisent, eux sont bien portants.
Alors, on n'imagine pas, en fait, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ce livre, on n'imagine pas la complexité, la profondeur et l'étendue des souffrances que vivent les fratries. Alors, on ne l'imagine pas, il y a plein de raisons pour ça. L'une des raisons, c'est que d'abord, les gens n'ont pas le temps, que ce soit par exemple l'entourage médical, ils sont absolument débordés et très centrés sur les soins apportés aux patients. Les parents, même ceux qui font des efforts absolument monumentaux pour rester à l'écoute de tous leurs enfants, il y a un mécanisme qui se met en place pratiquement à leur insu, c'est quand vous avez un enfant gravement malade, physiquement, psychiquement ou avec un sérieux handicap, il y a quelque chose de votre être profond qui est focalisé sur l'enfant, soit qu'il faut sauver, parce que la mort est un risque, soit qu'il faut accompagner parce que son quotidien est extrêmement difficile et douloureux. Et vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, être les parents les plus ouverts au monde, il y a quelque chose comme ça qui se joue, qui est nécessairement capté par les frères et sœurs, qui du coup vont essayer de ne pas la ramener, c'est-à-dire qu'ils sont... certains vont avoir un sentiment d'abandon extrêmement fort, d'autres vont simplement se dire, il n'y a pas la place, je ne vais pas en rajouter dans le chagrin des parents, dans les soucis des parents, donc je vais mettre un couvercle sur mes revendications, sur mes envies, sur mes besoins.
Oui, et ça fait des adultes plus bienveillants, plus matures, est-ce qu'ils sont aussi épanouis que les autres ?
Alors ça, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre à cette question, mais par contre, c'est vrai qu'il y a aussi un côté positif, parce que parfois quand j'en parle, j'ai l'air de brosser un tableau un peu noir, mais c'est vrai que ça donne des jeunes qui ont une maturité accélérée, ça donne aussi des jeunes qui ont un sens de la relativité, c'est-à-dire qu'ils font un peu le tri sur ce qui est grave et ce qui n'est pas grave dans la vie, donc ça c'est important.
Oui.
Souvent, certains de ceux que j'ai rencontrés, ça a développé chez eux un sens de l'empathie, une capacité d'écoute de l'autre qu'on n'a pas forcément quand on a 16, 17, 20, etc. Donc ça, oui, c'est le côté positif.
Mais vous avez réuni des témoignages de personnes qui justement ont eu de l'empathie pour le frère ou la sœur malade. On imagine que c'est peut-être pas forcément le cas. Il y a peut-être un rejet dans certaines fratries.
Alors, les sentiments des frères et des sœurs vis-à-vis de celui qui est dans la mauvaise position sont extrêmement complexes. Et c'est un peu la difficulté de l'histoire, c'est-à-dire que principalement le terme qui est le plus juste, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, on adore son frère ou sa sœur, parfois on l'admire, surtout quand il a réussi à surmonter des épreuves terribles, donc on a une admiration effrénée. Et en même temps, il y a des moments où on le déteste, parce qu'il a pris toute la place, parce qu'il a chamboulé la vie, parce qu'il vous a mis dans un sentiment d'insécurité, parce que par exemple, quand il y a un cancer, le quotidien, c'est l'incertitude absolue, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tout peut être annulé, tout peut être chamboulé. Or, les enfants et les adolescents ont aussi besoin d'un cadre, de quelque chose d'un peu stable. Et ça peut aller même beaucoup plus loin, donc il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Il peut y avoir aussi des vœux de mort, c'est-à-dire que, et y compris chez les tout-petits, il y a des moments où on a envie que celui qui vient de chambouler notre vie, bah, qu'il disparaisse. Et le sentiment qui vient juste après, c'est la culpabilité.
Mmh.
Et quand, malheureusement, l'histoire se termine par un décès, c'est très très compliqué à gérer tous ces sentiments.
Oui, oui. Est-ce que il y a eu des cas où, je ne sais pas si vous avez réuni tous les témoignages que vous avez eus dans ce livre ou s'il y en a d'autres que vous avez laissés de côté. Est-ce qu'il y a des cas où la fratrie, il y a un problème qui ne se résout pas, le rejet est très important et il y a de la haine, il y a plus cette empathie.
Oui.
Et donc ça peut plus fonctionner.
Oui, oui. Il y a des histoires terribles où ça se termine pas bien, où les familles sont fracassées, où les parents se séparent, par exemple. Ça arrive assez fréquemment parce que c'est des crises tellement intense que pour s'y retrouver, il faut vraiment... c'est un vrai travail. Donc,
oui.
Il y a des familles qui explosent et il y a des sentiments... Là, je reçois, depuis que le livre est sorti, je reçois pas mal de messages de lecteurs. Et notamment, là, je viens juste de recevoir le courrier d'une dame qui me dit combien la maladie et la perte d'un membre de la fratrie a fracassé la famille et combien, aujourd'hui, elle a 60 ans... Elle continue à avoir le sentiment d'avoir été la sacrifiée de la famille, l'oubliée de la famille. On n'a jamais pris le temps d'entendre et d'écouter ses souffrances et ses interrogations.
Oui, oui. Alors, ces récits que vous nous proposez dans votre livre, Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades, ces récits sont poignants. Il y a des points communs, en dehors de tout ce qu'on a dit, sur ces récits, ces parcours.
Alors, je crois que le premier sentiment qui est vraiment commun à tous ceux avec qui j'ai travaillé, c'est cette capacité de ne plus prendre en compte ses propres besoins, c'est-à-dire de considérer que la priorité, c'est toujours l'autre. Et de ce fait, ça finit par devenir une façon d'être. Et ça peut avoir des conséquences importantes sur les choix de vie, sur les choix de métier, etc. Ça devient une seconde nature.
Oui.
Et l'un des experts que j'ai interrogé, Monsieur Lecomte, va assez loin en disant si on veut vraiment aider les frères et les sœurs qui sont confrontés à ce genre de situation, il faut que la société, la famille, le corps médical considèrent que ce sont des victimes, au même titre qu'on considère qu'un enfant battu, un enfant qui a été violé, etc., etc., est une victime. Et en plus de ça, il faut que le frère ou la sœur lui-même se considère comme une victime, alors qu'en général, il considère que c'est l'autre la victime. Et à partir de ce moment-là, quand on a accordé ce statut, il y a une reconnaissance d'un vécu. Ça permet de vivre ses émotions, ça permet de les exprimer, ça permet de franchir un cap et que l'énergie recommence à circuler et qu'on retrouve un peu son propre chemin.
Oui, oui. Là, vous parlez de ses frères et sœurs qui sont victimes, qui doivent se sentir victimes. Est-ce qu'ils se sentent aidants aussi ? Est-ce que ce sont des aidants ?
Alors, ça fait partie aussi de certains points communs entre les différents témoignages, c'est-à-dire que, et c'est aussi un problème, souvent, dans ce genre de situation, le frère ou la sœur va occuper une place qui ne doit pas être la sienne. Soit il va devenir extrêmement protecteur avec celui qui est malade ou celui qui est gravement handicapé, ou bien il va se substituer aussi aux parents. Après, il y a des revendications, par exemple, hein, des années plus tard, quand la situation s'est un peu apaisée, on va avoir du ressentiment parce qu'on a le sentiment qu'on a perdu sa jeunesse, qu'on n'a pas vécu des choses qu'on aurait dû vivre à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Et il y a une espèce de manque, un peu de la colère. Enfin, il y a plein de sentiments. C'est très mélangé, c'est très compliqué.
Oui, oui. Ils se sentent aidants, non ? C'est pas forcément. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont pu. Alors peut-être pas tous ces frères et sœurs, mais certains d'entre eux ont dû beaucoup aider le frère ou la sœur malade, gravement malade ou handicapée.
Oui. Alors à nouveau, toutes les histoires sont singulières et ça dépend aussi énormément de la typologie de la famille et de comment les choses interagissent au sein même de la famille. Si les parents sont assez cadrant et remettre chacun à sa place, l'aide qui va être apportée par les frères et les sœurs, elle est positive, dans le sens où tout d'un coup, ils ont le sentiment qu'ils peuvent faire quelque chose, mais c'est pas dont ils ne se substituent pas soit à un aidant professionnel, soit aux parents. Et oui. Ça leur donne le sentiment d'avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe et d'être un peu fier aussi de pouvoir apporter un peu sa pierre à l'édifice.
Oui. Muriel Sibilia, vous restez avec nous. Je rappelle que vous sortez aux éditions Slatkin, Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades. On parle de ces frères et sœurs qui sont mis de côté, pas volontairement, mais de fait, on consacre tout son temps, toute son attention à l'enfant gravement malade. C'est logique et il y a une véritable souffrance derrière. On va voir ce qui est fait actuellement pour aider ces fratries et ce qui pourrait être fait.
Midi et vous.
Carole Clémence.
Et nous parlons aujourd'hui des frères et sœurs d'enfants gravement malades. Sortir de l'ombre, c'est le titre du livre de Muriel Sibilia aux éditions Slatkin. Nous parlons, on fait un constat, ces enfants ne reçoivent pas assez d'aide. Il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour eux. Ces enfants, donc la fratrie de l'enfant gravement malade. Muriel Sibilia, dans votre livre, dans la préface de votre livre, on comprend que vous êtes sensibilisée par cette situation, par votre expérience personnelle.
Oui, j'ai deux filles dont une a eu un cancer alors qu'elle avait 11 ans. Donc j'ai pu toucher du doigt un petit peu ce que ça voulait dire de passer un an à l'hôpital, toutes les conséquences que ça pouvait avoir et aussi d'observer au fil des années comment les relations entre les deux sœurs bougeaient et combien elles étaient effectivement très complexes.
Oui. Et aujourd'hui, elles sont adultes ?
L'une a 28 ans et l'autre 33.
D'accord, oui. Mais on observe que ça a vraiment...
Ça laisse des
à long
traces.
Terme, ça laisse des traces.
Oui, ça
à
laisse
long terme.
Des traces, bien sûr.
Et sur les témoignages que vous avez pu recueillir, qui sont dans votre livre, ou même d'autres, ça va jusqu'où, ces conséquences, ces traces ?
Alors, c'est très variable. C'est-à-dire que, par exemple, y a un cas où un des frères a donné sa moelle osseuse pour que le frère qui était malade puisse être greffé. Ça a créé une relation très symbiotique dans l'après-coup. Donc, ils sont très, très unis, il y a une grosse harmonie. Ça n'empêche pas la complexité hein, des sentiments, mais voilà, il y a du lien.
Oui.
La personne dont je parlais tout à l'heure, celle qui est devenue infirmière, au contraire, la famille a explosé et les relations entre les frères sont quasi inexistantes.
D'accord.
Donc, vraiment, c'est très, très... hétérogène.
Oui,
on ne peut pas tirer de loi générale.
D'accord, oui. Mais il y a cet effet boomerang des années après.
Alors ça fait partie des choses, et c'est l'une des raisons de ce livre, c'est-à-dire cette nécessité d'être attentif tout au long d'un parcours. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les conséquences d'un vécu aussi perturbant, elles ne sont pas simplement à court et moyen terme, elles existent aussi à long terme. Et je vais reprendre l'exemple de Michael qui a donné ses cellules à son frère. Il est très heureux, ça se passe bien. La greffe prend. Et puis quelques années plus tard, une fois que tout est à peu près tranquille dans la famille, où les équilibres sont un peu retrouvés, un beau matin, il ne peut plus se lever, lui. Alors que c'est un jeune homme dynamique, avec une vie sociale très riche, etc. Un matin, il ne peut pas se lever. Et ça dure un an.
Ah oui, oui.
Et personne ne comprend autour, et personne ne fait le lien, et ça met du temps pour qu'on on fasse le lien entre ce qui s'est passé plusieurs années avant et ce désarroi qui le prend soudain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces émotions qui avaient été contenues, tout, qui avaient été réfrénées, elles sont là. Je veux dire, si on peut faire ce qu'on veut, mais tant qu'elles ne sont pas exprimées, elles sont à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, ben ça sort. Ça peut sortir sous plein de formes différentes, y compris ça peut sortir sous la forme d'une maladie. Donc là, c'est une dépression. Et donc, d'où la nécessité vraiment d'être attentif et puis surtout d'aider ces fratries à mettre des mots sur leurs ressentis. C'est une des clés, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire les choses, être entendu. Et à ce moment-là, la parole est curative et elle permet aussi, elle est préventive. C'est-à-dire que ça permet aussi d'éviter des conséquences à long terme.
Oui, donc il faut que le frère ou la sœur de celui ou celle qui est gravement malade puisse lui en parler à lui ou à elle, c'est ça ?
Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut que le frère ou la sœur puisse être entendu par des adultes
D'accord.
bienveillants. Alors ça peut
donc
être...
ça peut être une aide extérieure, un psy.
Absolument. Alors il y a la partie médicale, mais en même temps, être un frère ou une sœur d'un enfant gravement malade ou sérieusement handicapé, c'est pas une maladie. Donc c'est important de mettre à disposition, c'est-à-dire de signaler à la fratrie et aux parents qu'il y a la possibilité, si besoin est, d'aller voir un thérapeute, etc. Dans certains hôpitaux, il y a des groupes de parole, il y a des associations aussi qui organisent des groupes de parole, ce qui oui. permet aux frères et aux sœurs de se retrouver avec des mêmes que soi, c'est-à-dire des jeunes qui ont un vécu similaire et de pouvoir exprimer leurs émotions dans un lieu qui les contient, où c'est pas dangereux de dire des méchancetés sur son frère et sa sœur.
Oui.
Voilà, parce qu'il y a un adulte qui est là, qui va recadrer, qui va remettre un peu les choses à leur juste place.
Oui, oui. Donc la parole, très important.
Essentiel.
S'exprimer pour l'enfant qui souffre. Et qu'est-ce qui est fait justement, là vous parlez de situations dans des hôpitaux, il y a des groupes de parole, il y a beaucoup de choses comme ça ?
Alors dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de services, il y a la mise à disposition de thérapeutes. Il y a des psychologues qui sont là et qui peuvent être consultés. Il y a l'organisation par exemple de groupes de parole, d'accueil des frères et sœurs. Il y a aussi des associations qui font un travail remarquable. Par exemple, en organisant des camps ou des balades ou des voyages et pour les patients. Et en même temps, dans certains cas, on invite les frères et sœurs.
Très bien.
Et ça, c'est très important. Dans ceux qui témoignent, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été relevé à plusieurs reprises, à savoir que tout d'un coup, le frère et la sœur a aussi le droit à la fois d'être à nouveau un enfant, ou un jeune adolescent, mais en même temps un droit au cadeau qu'on fait aux autres. Et,
oui.
et ça rétablit un certain équilibre.
Oui, c'est une bonne chose.
Oui.
Alors, ces associations ont pris en compte cette souffrance. Est-ce qu'elle est reconnue généralement, de manière générale, cette souffrance de la fratrie ?
Alors, c'est une des choses qui m'a un peu surprise dans l'enquête que j'ai faite, à savoir que même au niveau des soignants, pas mal d'entre eux ne soupçonnaient pas la complexité. Et du coup, c'est ce qui fait dire à l'une des directrices, enfin, l'une des chefs d'un service d'oncologie pédiatrique, qu'il est important d'organiser des formations, en utilisant ce livre d'ailleurs, de manière à sensibiliser un petit peu plus une partie du corps soignant pour qu'il soit plus en alerte sur les signes et qu'il puisse tirer la sonnette d'alarme et dire ce jeune-là, il y a un truc à faire parce que ça ne va pas bien.
Oui.
Et c'est compliqué parce que, par exemple, aussi une des choses qui m'a surprise, c'est que parfois, c'est quand tout a l'air d'aller très bien qu'il faut s'inquiéter.
Ah, mais alors comment savoir ?
Ben, il faut rester à l'écoute, il faut vraiment faire attention parce que, par exemple, les filles ont une grosse tendance à être dans la suradaptation. Donc elles deviennent des petites filles modèles, elles remplacent maman, elles font tout bien. Et du coup, elles sont excessives dans le perfectionnisme. Il faut que tout soit parfait. Il faut réparer des choses qui ne le sont pas.
Oui.
Et ça peut être une souffrance.
Bien sûr.
Les garçons vont avoir un comportement beaucoup plus extérieur, donc ils vont faire plein de bruit. L'un des témoins dans Sortir de l'ombre, il est allé jusqu'à faire un casse dans un village.
Oui.
Et il le dit, il dit, j'avais besoin à nouveau de ramener l'attention sur moi, qu'on m'entende. Et d'autres vont développer des maladies.
Oui, il peut y avoir des conduites délinquantes, des conduites,
bien sûr, des conduites
dangereuses pour la personne.
Oui.
Oui. Et donc, d'où l'intérêt de prendre en compte cette souffrance, de la détecter. Et puis, qu'est-ce qui peut être mis en place en dehors de ces groupes de parole qu'on voit dans les hôpitaux, dans les associations qui agissent? Il y a d'autres choses qui pourraient être faites?
Alors, moi, mon cheval de bataille, c'est d'alerter tout le monde pour dire, attention, si vous avez un ami, un voisin qui se trouve dans ce genre de situation, soyez, en tant que citoyen, à l'écoute, et chacun peut faire quelque chose.
Oui.
Alors, en priorité, les grands-parents, par exemple, sont très importants quand ils sont encore vivants, quand ils ne sont pas trop loin. Ils ont un rôle extrêmement important dans la prise en charge des frères et des sœurs, y compris parce que ça permet à la fratrie de à nouveau se sentir l'enfant de la famille.
Voilà. Donc les grands-parents peuvent porter leur attention sur la fratrie et moins sur l'enfant malade.
Bon, pas forcément, mais en tous les cas, vraiment prendre en compte les frères et les sœurs. Alors, pareil pour les oncles, les tantes, donc vraiment la famille. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Après, il y a aussi tout le voisinage. Il y a aussi l'école, les enseignants. On informe les enseignants qu'il y a cette situation de handicap ou cette situation de maladie grave. Et ça permet aux enseignants aussi d'être à l'écoute. C'est ce qui s'est passé chez nous, par exemple. On a bénéficié d'un soutien de la part du corps enseignant absolument formidable. Les enseignants ont expliqué aux élèves, se sont formés d'abord, sont allés à l'hôpital pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cancer pédiatrique, quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant, enfin, voilà à quoi on peut s'attendre. Et ils ont ramené cette information. L'école a organisé des réunions et ils ont parlé aux enfants. Ils ont expliqué, et du coup, parce qu'ils avaient bien repéré qu'il y avait de l'anxiété chez les élèves, et simplement le fait que les enseignants expliquent, mais du coup, les enfants ont été protecteurs et accueillants au lieu d'être dans le rejet.
Oui. Oui,
et à nouveau, la parole, quoi.
Oui, oui, toujours informer, sensibiliser, s'exprimer. Ça aurait pu arriver, ça, le rejet des enfants
Bien sûr.
Ça peut arriver.
Je veux dire, moi j'ai une anecdote qui est terrible. C'est que donc ma fille avait un foulard et c'était un moment un peu sensible sur la question des foulards. Et donc il y a une élève qui est allée voir le directeur ou un professeur, je ne sais pas très bien, en étant folle de rage, en disant pourquoi elle a le droit d'avoir un foulard et pas nous. Et c'était très violent comme sentiment.
Oui.
Donc évidemment, dans ce genre de situation, c'est tellement important qu'un enseignant puisse dire voilà pourquoi. Voilà pourquoi, alors que c'est pas la règle dans l'établissement. Ici, on fait une exception à la règle.
Oui, oui, oui. Ça amène beaucoup de réflexions autour de tout cela. Muriel Sibilia, vous restez avec nous. On continue à parler de votre livre « Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades » aux éditions Slatkin. On continue à en parler. On va voir d'autres cas, d'autres situations tout de suite sur Vivre FM.
Midi et vous.
Carole Clémence.
Lorsqu'un enfant tombe gravement malade ou lorsqu'il est gravement handicapé, il devient l'objet de toutes les attentions, le centre de la famille et bien sûr les sœurs ou frères en pâtissent. On en parle aujourd'hui pour sensibiliser justement à cette souffrance de la fratrie. Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades aux éditions Slatkin. C'est le livre de Muriel Sibilia qui est notre invitée aujourd'hui dans Midi et vous. Donc on parle de cette souffrance, on parle de ce qu'il faut faire pour aider ces enfants, donc s'exprimer, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, on s'exprime, on encourage l'enfant à s'exprimer. Est-ce que le parent doit expliquer que le frère ou la sœur gravement malade peut éventuellement décéder? Est-ce qu'il faut vraiment tout dire?
Alors c'est toujours, ça c'est la question essentielle, qui est la question de la vérité. Est-ce qu'il faut dire la vérité? Qui doit la dire? Est-ce qu'on doit la dire à tous les enfants? Est-ce qu'on doit la dire à tous les enfants au même moment? Alors, la réponse, à partir des témoignages que j'ai, des entretiens que j'ai eus avec des spécialistes, c'est bien sûr oui, il faut absolument dire la vérité.
Même si elle est dure, même si elle peut perturber l'enfant.
Même si elle est extrêmement violente, même si la vérité, c'est que l'enfant malade va décéder. C'est très, très important parce qu'il apparaît que la vérité est toujours moins violente que l'imaginaire. Et que lorsque on ne dit pas les choses, à un enfant ou à un adolescent, c'est la porte ouverte à l'imagination et la vision, par exemple, de la mort qu'ont les petits. C'est la mort qu'on voit à la télé avec du sang partout, avec c'est des choses très, très violentes. Oui. Donc, ça nourrit leur imaginaire et ils peuvent extrapoler et se raconter, se faire des films qui sont encore plus terribles. Donc, dire la vérité, c'est essentiel. La question qui vient après, c'est qui doit la dire ? Alors, ça va dépendre à nouveau des familles. Il y a des familles qui tiennent à être vraiment, très autonomes dans ce genre d'histoire. Ce que conseillent certains spécialistes, c'est de plutôt laisser ce soin au corps médical, de manière à ce que les parents restent ceux vers qui on va se précipiter pour avoir un câlin et se faire réconforter.
Oui.
Qu'ils ne deviennent pas le messager de la mauvaise nouvelle. Voilà, mais ça dépend. À nouveau, il faut voir à chaque fois quelle est la dynamique de la famille. Et en même temps, c'est important de la dire à tous. Alors, pas forcément avec les mêmes mots. C'est-à-dire qu'on va pas parler de la même manière à un enfant de 4 ans et à un adolescent de 16 ans.
Oui.
Et les réactions sont aussi différentes. C'est-à-dire qu'un petit, il va avoir besoin d'être très entouré, très câliné, très rassuré sur le fait que ses parents vont pas l'abandonner. Un adolescent... Bon, il va aussi avoir besoin d'être rassuré sur le fait qu'on l'aime toujours autant, mais il va surtout avoir besoin de mettre du sens sur ce qui se passe,
oui.
De trouver un petit peu une origine, le pourquoi, d'avoir des réponses au pourquoi. Et c'est aussi important de le dire à tous les enfants, parce que si on dit la vérité seulement, par exemple, à l'aîné, on lui fait porter un fardeau qui est extrêmement lourd et on le met en porte-à-faux avec les autres.
Oui, oui. Et puis après, il peut peut-être y avoir une colère de l'enfant qui n'a pas été informé.
Bien sûr. Bien sûr.
Parce qu'il n'aura pas vécu comme il aurait voulu les derniers instants du frère ou de la sœur.
Oui.
Alors, j'imagine que tous les spécialistes, tous les médecins ne sont pas forcément formés pour donner cette parole à l'enfant. Est-ce qu'on peut confier cette information, demander aux spécialistes d'expliquer à l'enfant ? Est-ce que le parent peut le faire en toute sécurité, est-ce que le spécialiste va forcément savoir bien exprimer la chose ?
Oui, normalement, ils sont assez compétents dans le domaine. En général, par exemple, quand c'est un service d'oncologie pédiatrique, ils ont l'habitude et ils savent parler aux enfants. Oui,
ils
en général. Bon, il y a toujours...
Ils sont spécialisés sur la parole aux enfants. Il y a d'autres choses comme ça qu'on peut faire à part tout ce qu'on a évoqué. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. Les associations qui sont très présentes, qui peuvent organiser des groupes de parole, qui peuvent organiser des voyages, des temps de repos pour l'enfant, des temps d'évasion. Par exemple, l'association Enfance et Cancer, l'association franco-suisse, à laquelle vous donnez tous vos droits d'auteur.
Oui. Alors, oui, je les donne à Enfance et Cancer, qui est une association formidable, qui travaille depuis plusieurs années maintenant et qui collecte des fonds. Et ces fonds sont attribués, alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la présidente, qui s'appelle Anne Gouin, a créé un comité scientifique qui, chaque année, va choisir des projets qui vont être financés grâce aux dons des uns et des autres. Donc, je vous invite à donner même 1 euro, même 5 euros, c'est toujours important. Et ça a permis déjà ces dernières années vraiment des avancées très, très importantes dans le domaine de la recherche de certaines formes de cancer.
Oui, oui. Et puis, une autre question. Est-ce que le parent doit essayer d'éloigner la fratrie de l'enfant malade, ou en tout cas essayer de mettre un certain recul pour que la fratrie ne prenne pas toute cette douleur de l'enfant malade, toute cette gravité ?
Je ne suis pas sûre de savoir répondre à cette question. Dans les témoignages qui sont dans le livre... Notamment, il y a 5 témoignages de frères et de sœurs qui ont perdu leur frère. On constate combien ça a été important pour chacun d'entre eux d'être présent, y compris au moment du décès. Donc, c'est des passages assez émouvants où ils racontent comment on les a laissés rentrer dans la chambre où le petit frère venait de décéder. Et ce sont des moments très importants.
Oui.
Ce sont des moments de réalité qui permettent ensuite de construire un cheminement et d'apprivoiser cette perte.
Oui, alors qu'on aurait peut-être tendance à se dire, ben non, on ne va pas permettre aux petits de voir son frère ou sa sœur.
Oui, et c'est la même chose pour les funérailles. Hein. C'est-à-dire que de la même façon que pour les adultes, c'est important de se retrouver avec l'entourage, avec les amis, etc., dans ces moments qui sont extrêmement douloureux. C'est très important que les frères et sœurs soient là aussi.
Oui, oui. Et donc, la parole, la vérité, on dit tout, on encourage l'enfant à s'exprimer. Alors, peut-être pas forcément au sein de la famille, mais il peut. Mais on l'encourage à s'exprimer aussi à l'extérieur avec des thérapeutes, des aidants. Oui.
Alors, on dit tout, et comme dit l'association Résiliam, qui intervient aussi dans mon livre, on dit tout avec des mots gentils. Donc on fait attention,
oui.
On balance mal des trucs comme ça, juste parce qu'il faut dire la vérité. On adapte en fonction de l'enfant, en fonction de l'âge, la manière dont on présente les choses, mais on reste dans le vrai. Et cette vérité, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est ça qui crée la relation de confiance. Et par exemple, dans les cas de maladies graves, un médecin, normalement, ne va jamais dire « je te promets qu'on va guérir ton frère ou ta sœur ». Il va dire « je te promets qu'on va faire tout ce qu'on peut,
oui,
pour le guérir ».
Oui.
Et ça permet, par la suite, chaque fois que quelque chose est dit, le frère ou la sœur est en confiance.
Oui, oui. Donc, on vous encourage également à vous rapprocher d'associations. Si vous êtes touché par cette situation, il y a beaucoup d'associations, vous me le disiez hors antenne, autres qu'Enfance et Cancer, il y en a beaucoup d'autres partout, en France ou même en Suisse. Merci Muriel Sibilia. Je rappelle que vous sortez aux éditions Slatkin Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades. Merci à vous. Un dernier mot peut-être ?
Mais les gens que ça intéresse peuvent aller sur ma page Facebook. Il suffit de taper Muriel Sibilia, récit de vie. Et vous y trouverez beaucoup, notamment un courrier des lecteurs avec des gens qui disent des choses vraiment très touchantes et très intéressantes et qui peuvent être utiles. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on dit il faut que la parole circule à l'intérieur d'une famille parce que c'est ça qui fait que la famille est en bonne santé, là, il faut aussi que la parole circule au niveau des frères et des sœurs qui ont eu cette histoire-là et qui peuvent trouver cette opportunité pour partager des choses.
Oui. Merci Muriel Sibilia. Vous étiez l'invitée de Midi et vous. Cette émission était réalisée par Florian Pro. Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.